La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un monde.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Nous autres humains, habitants précaires d'un monde fragile, ne devinons que depuis peu où nous sommes et ce que nous sommes. Si à cette question les religions, les mythes, les grands curieux, les grands savants ont cherché depuis l'Antiquité des réponses parfois fulgurantes, c'est au XIXe siècle que notre compréhension se transforme et que nous avons dû tout réviser de ce que nous croyions acquis. Une exposition au musée d'Orsay relate ces bouleversements dus au développement sans précédent des sciences naturelles et des grandes explorations. Cette exposition présente leur effet, la stupeur que ces découvertes provoquent chez les artistes, premiers témoins et premiers curieux des conséquences de ces révélations. La diversité de la nature, la découverte de nouvelles espèces, le temps long de la formation de la Terre, l'ancienneté de l'homme, les formes gigantesques des monstres de la préhistoire et la révolution que fut le travail de Darwin qui publia en 1859 l'origine des espèces par la sélection naturelle, tout cela provoqua dans notre compréhension des mécanismes de l'évolution et donc de notre propre ascendance un ébranlement psychologique total. C'est à ce voyage spectaculaire dans l'apparition d'un monde nouveau et ses conséquences sur la psyché collective que nous invite l'exposition « Les origines du monde et l'invention de la nature au XIXe siècle ». Mais comme notre vision du monde continue de se transformer, le musée a judicieusement ajouté à son exposition une commande à l'artiste Laurent Grasso, dont l'œuvre très inspirante, installée dans la perspective de la grande nef du musée, souligne la poursuite des mutations du visible. Avant de donner la parole à mes invités, il me faut insister sur l'effet de cette exposition sur le musée. La présidente, Laurence Descartes, en programmant ce sujet, voici près de 3 ans, fait d'Orsay autre chose que le spectacle superbe de l'histoire esthétique d'une époque. Cette exposition, qui concerne au plus près les interrogations anxieuses d'aujourd'hui sur notre relation à la nature et à ce qu'est notre situation au cœur de celle-ci, fait résonner tout le musée et le rend infiniment contemporain, soulignant ainsi la puissance et l'urgence de la culture dans la vie d'une société en temps de crise. Pour parler de cette exposition, j'ai le plaisir de recevoir sa commissaire générale, Laura Bossy. Laura Bossy, comment allez-vous ?
Très bien, merci, bonjour.
Vous avez accroché cette exposition somptueusement. Vous êtes la commissaire générale, mais on vous connaît également comme neurologue, historienne des sciences. Vos domaines de recherche sont l'histoire des idées, leur influence sur l'art. Vous oscillez entre ce monde de la science et le monde des arts comme s'il était éternellement et continuellement fécond. Est-ce que c'est le cas ?
Je crois qu'en effet, on a un peu tort de séparer l'art, les sciences, et l'histoire de l'art, l'histoire des sciences. Dans une vision un peu plus générale d'histoire des idées, il y a toujours eu des passerelles. On ne peut pas parler d'influence, mais les artistes se sont toujours intéressés aux évolutions de la culture aussi scientifique de leur époque. Et au 19e, cela est particulièrement prégnant et important.
Alors c'est ce que va aussi ce dont va témoigner l'artiste Laurent Grasso qui est avec nous aussi aujourd'hui et auquel a été faite cette commande dont je parlais tout à l'heure. Bonjour Laurent, vous êtes là ?
Bonjour Jean Deloisy, bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Alors vous avez été prix Marcel Duchamp en 2008, vous avez cette extraordinaire commande qui a été faite, je crois, il y a 3 ans déjà, n'est-ce pas ?
Oui, nous avons commencé une discussion avec Laurence Descartes il y a quelques années, avant qu'elle soit la présidente du musée d'Orsay, suite en partie à un projet que j'avais fait avec Philippe Costamagna, qui m'avait confié un petit peu les clés de son musée et de sa collection.
C'est le musée Fesch d'Ajaccio dont vous parlez.
Exactement. Et donc, on a commencé une discussion sur le long cours avec Laurence petit à petit, on a précisé le cadre d'une collaboration et moi, à un moment, je lui ai proposé de faire un film parce que c'est quand même mon premier médium. C'est un peu l'origine de ma pratique. Et elle avait cette idée au départ de réenchanter la nef. Et donc, pour moi, naturellement, j'ai proposé d'installer un écran au bout de la nef et d'essayer d'interagir avec ce bâtiment qui est très, très particulier et très impressionnant.
Alors c'est artificialiste, on va en parler tout à l'heure, mais Laura Bossi, c'est assez intéressant pour vous, j'imagine, qui montrait dans cette exposition l'incroyable impact sur l'esprit des artistes des découvertes scientifiques du 19e siècle, que de montrer que ça continue, l'aventure se poursuit.
Bien sûr, dans l'exposition, nous avons essayé de montrer comme il y a eu un émerveillement et aussi une inquiétude des artistes devant le développement des sciences. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt l'inquiétude qui prévaut. Dans mon exposition, dans notre exposition, j'ai plutôt essayé de suivre un peu le principe qui guidait les savants au moment de la Révolution française, qui imaginaient de pouvoir bâtir un seul grand musée qui aurait dû réunir le Louvre, le musée des arts et des techniques et le muséum, comme une sorte de grand lycée unique, et dans le but d'instruire et de faire plaisir, donc instruire et émerveiller. Et donc on a été guidé un peu par l'idée de montrer d'abord aussi un parcours assez rigoureux guidé par l'histoire des idées, mais aussi l'émerveillement, la beauté tout simplement.
Alors la beauté, on la ressent tout de suite, on rentre dans l'exposition, il y a quelques incunables qui nous montrent l'idée de la création du monde qu'on a eue depuis le XIIIe siècle, depuis le christianisme on peut dire, et effectivement le XIXe siècle est vraiment, a-t-on compris, même si c'est un XIXe siècle un peu plus long que son encadrement temporaire classique, le XIXe siècle est vraiment une mutation dans la compréhension des temps et de la longueur du temps qui est incroyable.
Oui, nous avons, comme vous le dites, nous avons donc avec Laurence Descartes choisi de montrer un long 19e siècle. Bon, Orsay est le grand musée du 19e siècle, mais la chronologie spécifique d'Orsay est un peu plus courte. Mais pour montrer ce voyage, on a choisi de commencer vraiment au début, même au moment de la Révolution et des Lumières, et arriver jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et le temps, la découverte de l'histoire est quand même un des multiples fils qu'on peut suivre lors du parcours de l'exposition. Je fais un petit saut de côté pour dire que c'est une exposition qui a un vrai parcours. Il faut surtout pas commencer à la regarder par la fin. Nous commençons en fait par essayer de montrer comment, pendant des siècles, on a imaginé un monde clos dans le temps et dans l'espace, comme un jardin créé pour l'homme pour qu'il le cultive et le garde. Et après, avec les débuts des premiers voyages d'exposition, d'exploration, pardon, ce monde s'élargit de plus en plus. Et au XIXe siècle, on va aussi découvrir l'inimaginable ancienneté, qu'on appelle l'antiquité du monde. Donc le fait que la Terre a une histoire, que la vie a une histoire très très longue et que l'homme a aussi une histoire beaucoup plus longue de celle qu'on pouvait imaginer.
Il faut dire qu'on pensait que l'homme avait, je sais pas, 10 000 ans et tout d'un coup on s'est retrouvé avec un homme de 3 millions d'années, quoi.
Oui, ça, pas encore au 19e, mais au 19e, progressivement. Déjà, la Terre, on croyait que la Terre était vieille de quelques milliers d'années. Ensuite, déjà, Buffon s'interrogeait, très anxieux, est-ce que il a essayé de la mesurer, est-ce que la 400 000 ans, il n'a pas osé le dire. Et maintenant, bon, nous savons tous, nous apprenons tous, déjà enfants, que le monde est très très vieux. Mais à l'époque, c'était une véritable révolution qui a d'ailleurs entraîné un changement total aussi de notre vue de la Terre d'Alésar. Le paysage, par exemple, était considéré avant comme plutôt une toile de fond pour montrer des dieux, des hommes, etc. Et c'est devenu une catégorie de la peinture à part entière. On a vu apparaître des montagnes, des glaciers, des volcans, des déluges, des tempêtes.
Là, il y a dans l'exposition, donc une fois qu'on a passé ce moment du jardin dont vous parlez, où il y avait à l'entrée le très très beau tableau de Palizzi qui représente après le déluge la façon dont tous les animaux sont organisés et sauvés par l'homme. C'est un moment très 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 beau. Et tout d'un coup, on est dans les immenses paysages. Et il est vrai que ces paysages, c'est le fruit des grands voyages d'exploration. Et je pense à un tableau que vous avez obtenu, qui est magnifique, de Church, hein, donc qui est une vue de l'équateur avec les immenses chutes d'eau, le très grand volcan parfaitement conique au bout, le ciel bleu et les fumées de toutes les couleurs qui s'échappent de ce volcan. C'est une entrée en matière incroyable.
Oui, nous avons Church est un des très grands paysagistes américains et il était très influencé par les grands voyages de Humboldt et Bonpland. Humboldt, le plus parisien des Prussiens, a été considéré comme un second découvreur de l'Amérique. Nous nous montrons d'abord, aussi d'ailleurs c'est le seul portrait que nous montrons dans l'exposition, dans la section dédiée aux grandes explorations. Nous montrons Humboldt et Bonpland entourés de leurs instruments et aussi avec un volcan dans le fond. Mais Church, comme beaucoup d'autres paysagistes américains, était très influencé par cette idée du paysage, de la diversité. Humboldt était probablement le premier véritable penseur de la biodiversité. Il appelait ça Mannigfaltigkeit, l'infinie variété. Et donc Church nous montre un paysage qui est vraiment proprement géologique. On voit les strates des rochers, on voit un volcan, on voit des chutes d'eau. Il nous montre, comme quelques autres tableaux, nous avons aussi une tempête de Turner, un magnifique tableau avec des strates des Carousses, qui était un grand ami de Caspar David Friedrich, qui montre que les peintres vont sur les lieux décrits par les géologues et par les explorateurs, et où on peut lire l'histoire de la Terre.
Alors, c'est assez frappant quand on voit le travail de Carus. Effectivement, ce sont des orgues basaltiques qu'il nous montre, et on voit la passion pour la géologie. En fait, on découvre la passion de tous ces artistes pour les découvertes qui ont lieu en ce moment. Laurent Grassou, est-ce que une même passion anime un artiste d'aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Tout ce qui vient d'être dit est très intéressant parce que, en effet, l'art n'a pas à être, un domaine isolé qui ne tiendrait pas compte de son environnement, et au contraire, la question du rapport à la science est une question très intéressante. Même si ce qui peut en découler aujourd'hui, c'est que il est très complexe de comprendre ce qu'est vraiment l'objet des différentes recherches que font les scientifiques aujourd'hui. C'est très complexe de parler de physique quantique, où on l'a vu là avec la crise que nous traversons. Elle a pu donner l'impression à tout le monde qu'on pouvait tous donner notre avis et puis essayer d'imaginer des solutions, alors que en fait ce que cette crise a révélé, c'est que nous sommes face à l'inconnu. Déjà les scientifiques le sont, et voilà, les citoyens le sont encore plus. Mais pour autant, moi, j'ai toujours considéré que mon travail devait se nourrir du monde d'aujourd'hui, entre guillemets, j'ai toujours aussi considéré mon travail comme un outil pour essayer de comprendre ce qui m'entourait, donc j'ai un modèle, un espèce de processus de travail qui fonctionne un peu comme celui d'un réalisateur, c'est-à-dire que je change de sujet voilà, je décide d'un domaine, d'une question, et je m'entoure de différentes personnes, je me documente et j'essaye d'avancer de travailler avec de la documentation pour nourrir le projet et faire en sorte que ça ne soit pas juste un geste artistique, mais que l'œuvre à la fin puisse un petit peu interroger le monde dans lequel nous vivons.
Alors vous l'interrogez d'une façon très très différente, évidemment, de Church ou bien des illustrateurs, des accompagnateurs de Humboldt et Bonpland qui vont tirer de ces voyages des images totalement nouvelles. Vous, c'est un voyage virtuel que vous faites dans l'exposition. Et on va y revenir. Ce que je voudrais, avant d'interroger Laura sur quelques personnages qui sont à l'entrée de l'exposition et sur lesquels j'aimerais bien qu'elle nous raconte l'intérêt de leurs histoires, je voudrais qu'on écoute Balzac quand il parle de son enthousiasme pour la science, pour la science de Cuvier en particulier.
Vous êtes-vous jamais lancé dans l'immensité de l'espace et du temps en lisant les œuvres géologiques de Cuvier? Emporté par son génie, avez-vous plané sur l'abîme sans bornes du passé, comme soutenu par la main d'un enchanteur? En découvrant de tranche en tranche, de couche en couche, sous les carrières de Montmartre ou dans les schistes de l'Oural, ces animaux dont les dépouilles fossilisées appartiennent à des civilisations antédiluviennes, l'âme est effrayée d'entrevoir des milliards d'années, des millions de peuples, que la faible mémoire humaine, que l'indestructible tradition divine ont oublié, et dont la cendre entassée à la surface de notre globe y forme les deux pieds de terre qui nous donnent du pain et des fleurs. Cuvier n'est-il pas le plus grand poète de notre siècle?
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons de la grande exposition qui ouvre incessamment au musée d'Orsay, Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle. Et je suis avec l'artiste Laurent Grasso et la commissaire générale Laura Bossi pour parler de cela. Et on sent dans le texte de Balzac, évidemment, l'enthousiasme des artistes qui trouvent que tout d'un coup, ces grands savants sont aussi des poètes. N'est-ce pas Laura?
Ah oui, on retrouve l'écho de cet enthousiasme auprès de beaucoup d'écrivains du 19e siècle. Tous les grands vulgarisateurs sont lus par tout le monde. Bien sûr, Flammarion, Flammarion, Figuier et d'autres. Mais il y a aussi beaucoup de poètes et d'écrivains qui s'inspire vraiment de cette fascination des sciences. Et moi, j'aimerais que dans cette exposition, les visiteurs arrivent à retrouver cet amour des sciences et cet amour de l'art conjoint.
Alors, quand on commence l'exposition, on l'a dit tout à l'heure, on a le jardin, le paradis terrestre, et puis effectivement, c'est le début d'un regard scientifique ou pas scientifique, d'un regard de collectionneur sur les cabinets de curiosité, la grande curiosité qui commence à s'installer et qui se rationalise petit à petit. Et donc, on a ces grands tableaux qui sont là, qui sont admirables. Et puis, vous avez choisi de mettre en évidence deux personnages inattendus et qui correspondent à l'arrivée de nouvelles formes et de nouvelles vies dans la société occidentale, qui sont un rhinocéros et une girafe.
Ah oui, en effet, nous avons choisi de mettre l'accent sur une nouvelle façon de voir l'animal. par le choix de ces deux animaux, mais on pourrait aussi parler de l'éléphante Parky, qui elle est à l'entrée de l'exposition naturalisée. Ce sont les premiers animaux exotiques, disons, qui viennent de loin, comme et qui ont un nom, une biographie, et qui sont admirés par les rois et par le peuple, et qui ont des vies étonnantes. Et moi, je suis particulièrement fan, on pourrait dire, du grand périple du rhinocéros Clara, qui est un rhinocéros femelle, qui est arrivé encore toute jeune en Europe, et qui ensuite, accompagné d'un impresario extrêmement entreprenant, le capitaine hollandais Van der Merck, a passé 12 ans à courir toute l'Europe, traîner en partie dans un chariot qu'on peut regarder dans un des tableaux de l'école de Longue que nous montrons dans l'exposition, et aussi elle a traversé des fleuves, la mer, etc. Et elle a incarné vraiment différentes visions de l'animal. Au début, elle était presque un animal de compagnie avant d'arriver en Europe, adoptée toute petite parce que sa mère avait été tuée par des chasseurs. Ensuite, son impresario l'a commencé à la montrer à Leyde, sa ville natale, où son premier portrait absolument étonnant, nous le montrons, elle figure dans le plus bel atlas anatomique de l'époque, l'Albinus, portraituré de face et de dos en train de brouter l'herbe, ce qui était sa principale occupation, comme celle de tous les rhinocéros. Et ensuite, elle va à tous les cours d'Allemagne, d'Autriche, de France, et elle déchaîne d'Angleterre par la suite, où elle mourra parce que sans doute on n'a pas réussi à la nourrir de manière adéquate. Mais elle a déclenché une véritable rhinomanie. Donc on a là par exemple un seul exemple, qui est une magnifique pendule que nous prête le Louvre. Mais il y a eu même des coiffures à la rhinocéros. Pareil, Zarafa, un peu plus tard, est un exemple plus connu, mais nous la montrons sous forme de diorama. Et ça, c'était particulièrement intéressant, parce que les dioramas, manifestement, ne peuvent pas être transportés en général, mais c'était une forme très courante au XIXe siècle de montrer les animaux. Et là, nous avons un petit diorama que nous prête le muséum qui est notre partenaire pour cette exposition, qui nous prête généreusement beaucoup de magnifiques objets scientifiques.
C'est toujours un partenaire formidable, le muséum. Hein. Et c'est vrai qu'il a prêté là des choses inouïes.
Je voudrais le souligner, oui.
Ouais. Et ce qui est assez extraordinaire dans toute cette partie-là du muséum, c'est qu'on voit aussi la façon dont les artistes regardent quelque chose qui leur est nouveau d'une certaine façon. C'est l'effet du Jardin des Plantes sur Delacroix, sur Barry, sur tous ces artistes-là.
Oui, nous avons à peine esquissé, mais bon, pour ceux qui s'y intéressent le plus, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. On a voulu montrer que Barry et Delacroix, qui étaient amis, allaient travailler au Jardin des Plantes. Bon, on sait que, par exemple, quand le lion du Jardin des Plantes est mort, Delacroix a tout de suite appelé Barry en lui disant « Réveille-toi, viens vite, on va aller dessiner le lion, etc. » Et ils avaient développé tous les deux de façon différente d'étudier les animaux. Barry avait une façon très étrange pour nous de mesurer tout l'extérieur des animaux. Tandis que Delacroix, on voit esquisse déjà des mouvements, c'est de façon très différente. Mais là, je m'égare un peu.
Mais non, mais c'est quelque chose qui est intéressant parce que chez Delacroix, on sent qu'il y a une énergie à l'intérieur de l'animal. C'est comme si la puissance vitale qui va être si importante dans le reste de votre exposition était déjà devinée à l'intérieur de l'énergie de l'animal. Parce qu'au fond, ce que Laurent Grasso fait dans son film et ce que vous montrez dans votre exposition, c'est la découverte d'une sorte de nature naturante qui se procède de sa propre énergie et invente ses formes.
Oui, ça c'est un thème de la deuxième partie, disons, de l'exposition, qui montre, le pivot de l'exposition est constitué par les différentes facettes de l'évolutionnisme. et qui commence déjà en France d'ailleurs avec le transformisme de Lamarck, qui est ensuite évidemment développé, argumenté, étayé par Darwin et popularisé ensuite dans une forme pas toujours fidèle, mais qui aura une grande importance dans l'histoire des idées, aussi une importance heuristique par le grand darwiniste allemand Ernst Haeckel.
Alors et, ça c'est un moment extraordinaire dans l'exposition. On va y revenir si vous voulez, mais on a abandonné parce que il y a tellement de richesses. Mais c'est vrai que le pivot de l'exposition c'est Haeckel et Darwin. On se rend compte que tout d'un coup un monde de formes nouvelles apparaît. Je voulais interroger un instant Laurent Grasso sur cette question des formes nouvelles que Haeckel montre, parce que on a visité Laurent et moi l'exposition ensemble et effectivement tout d'un coup il y a une nouvelle visibilité de l'invisible qui se fait, et je me demande si, dans votre travail, Laurent, ce n'est pas une nouvelle visibilité du visible qui apparaît, comme un autre régime du visible.
Oui, en fait, les artistes sont toujours très intéressés par toutes les nouvelles représentations, toutes les nouvelles techniques qui permettent de mieux comprendre ce que l'on peut étudier en tant qu'artiste. Alors, dans le film, j'ai utilisé de nouveaux types, et depuis quelques années, je me suis toujours intéressé à de nouveaux types de caméras qui, en fait, augmentent, entre guillemets, le visible et qui vont nous permettre de voir des choses que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, cette histoire, elle commence avec différentes technologies, hein, les rayons X, et on remarque que à chaque invention, il y a aussi des croyances qui apparaissent, et l'idée qu'on pourrait capter, filmer, enregistrer les fantômes. Donc il y a une espèce d'histoire parallèle entre de nouvelles techniques pour comprendre le monde et le visualiser et le représenter, et des croyances un petit peu plus ésotériques comme le spiritisme. Et d'autres choses. Et aujourd'hui, les dernières caméras intéressantes et souvent des recherches qui sont aussi soit pour des scientifiques, soit pour l'armée. Donc il y a toujours aussi voilà une espèce de conquête du visible qui peut être aussi un objet de pouvoir et un atout dans une guerre, voir dans le noir par exemple avec toutes ces caméras qui permettent de voir dans l'obscurité, voir à travers des portes, des immeubles, et donc là par exemple il s'agit de la technologie des scanners LIDAR que j'ai utilisé pour le film Artificialiste, qui en fait permettent de voir par transparence. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça produit à la fois une nouvelle esthétique, une nouvelle imagerie à laquelle notre cerveau n'est pas habitué. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que toutes ces images un petit peu nouvelles, elles déclenchent un peu des nouveaux chemins dans nos cerveaux, puisque c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender. Et donc le LIDAR a permis par exemple de découvrir des ruines mayas, d'explorer les fonds sous-marins. Et comme moi je n'ai pas pu tourner parce que normalement c'est une partie qui m'intéresse aussi dans mes films, c'est l'idée un peu de l'exploration au sens presque premier, géographique, se déplacer dans un endroit pour y prélever des informations, pour voilà voir comment ça fonctionne. Et j'ai fait plusieurs projets sur ce régime. Là, il n'a pas été possible de tourner, et donc j'ai acheté les droits sur des scanners qui ont été faits dans une forêt amazonienne, par exemple, ou sur la banquise. Et j'ai pu, avec une équipe, créer une caméra virtuelle qui se promène à l'intérieur de ces paysages virtuels en décidant du mouvement de la caméra, de la vitesse et voilà de tout un certain nombre de paramètres. Donc oui, le visible est augmenté, notre compréhension du monde est augmentée par des outils qui nous permettent aussi, par exemple les caméras hyperspectrales, qui permettent de voir du méthane sous une forme, on voit, c'est après représenté et c'est codé par la caméra et par les outils de traitement de l'image, mais d'un seul coup on voit un nuage qui représente le méthane que notre œil ne peut pas voir.
Alors, Laurent, donc, on a quelque chose qui est pas du tout symétrique, mais qui évoque un petit peu ce que vous êtes, ce que vous avez fait. Laura Bossi, quand on est dans l'exposition, il y a deux choses qui se produisent. C'est qu'il y a de nouvelles découvertes qui font réinventer complètement notre situation dans le monde. Et puis, il y a un grand débat qui est le cœur de l'exposition, où entre le fixisme, dites-vous, je crois, et l'évolutionnisme. Comment est-ce que vous pouvez décrire cela et qu'est-ce que cela veut dire au cœur de l'exposition et comment est-ce que les artistes s'en servent ?
À vrai dire, l'exposition n'essaye pas vraiment d'écrire un débat entre le fixisme et les différentes formes d'évolutionnisme, mais elle montre comment, avec les découvertes d'un monde très très ancien, donc le temps long, et d'une infinie variété d'espèces, les trois expéditions que nous montrons reviennent avec 2500 nouvelles espèces, 6000 nouvelles espèces, etc. Ça devient incompatible avec l'idée d'un nombre d'espèces relativement limité créées par Dieu telles qu'elles sont. Mais il y avait déjà avant quand même des hypothèses de transformation des espèces, même avant Lamarck, mais déjà avec Lamarck qui, dans la philosophie zoologique, imagine que les espèces peuvent se transformer. Déjà Buffon l'imagine de manière un peu timide, mais l'imagine. Ce qu'on a essayé de montrer, nous, plutôt dans la section centrale, ce sont les différentes incarnations et différentes théories un peu de l'évolutionnisme par ces deux principaux protagonistes dans la deuxième partie du siècle, Darwin et Haeckel. Pour Darwin, on a montré par exemple un tableau de Hunt qui montre des pigeons. Darwin a passé 3 ans chez les colombophiles et il a étudié la variation des pigeons par une sélection artificielle. Donc ça l'a beaucoup inspiré pour sa théorie de la sélection naturelle, pardon. La sélection naturelle, on a pu essayer de la montrer par un tableau de Liljefors, qui était un grand peintre animalier suédois, qui montre une famille de renards. Et là, on peut montrer qu'il y a de la prédation, bien sûr. Il y a des avantages de certains animaux par rapport aux autres, etc. Mais il y a aussi le soin de l'autre génération. Il y a des renardos, il y a le jeu. Donc c'est un tableau assez emblématique d'un monde, disons, darwinien qui n'aurait pas été plus avant.
Il est magnifique, ce tableau. Il est de 1886. Hein. C'est un très grand tableau horizontal. Et effectivement, il y a un renard adulte avec de petits renardos entre les jambes. Et on peut faire quasiment la psychologie de chaque animal. Et tout ça se passe dans un champ apparemment assez exactement décrit, avec des pollens qui traversent le tableau, qui rayent le tableau en quelque sorte, comme si la reproduction du monde, la génération du monde était évoquée très directement par l'artiste.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il connaît très très bien les plantes et les animaux, parce que les plantes décrites sont exactement au stade de la floraison, au moment où les renardos ont cet âge-là, etc. Bon, c'est un peintre qui a d'ailleurs peint un magnifique diorama qui est encore conservé en l'état. Si par hasard vous passez par Stockholm, c'est tout à fait intéressant. On a essayé aussi de montrer une autre théorie qui est une théorie esthétique de Darwin, qui est la théorie de la sélection sexuelle. Darwin était convaincu que la sélection sexuelle, donc le succès reproductif, diraient les biologistes d'aujourd'hui, était quelque chose d'assez spécifique et pas limité, faisait pas vraiment partie de la sélection naturelle telle qu'il la décrivait. Et il décrit les armements et les ornements des mâles pour conquérir la femelle. Donc on a essayé de montrer ça. Les armements étaient par exemple les bois des cerfs, etc. Et les ornements plus typiques sont les plumes du paon. Et Darwin avait écrit que dès qu'il voyait une plume de paon, ça lui donnait mal à la tête, parce que il n'arrivait pas à imaginer comment des plumes aussi élaborée puisse être compatible, parce qu'elle pouvait, par exemple, empêcher la fuite devant un prédateur. Et il se demandait pourquoi, sinon pour plaire à la panne, donc à la poule. Donc cette théorie était beaucoup critiquée parce que pour Darwin, c'était le choix esthétique de la poule, de la panne, dans ce cas-là, ou de la faisane argus, qui déterminait ce déploiement de forme. Donc un gros pour Darwin, c'est la beauté a un fondement sexuel. Je ne suis pas du tout sûr qu'il ait raison, mais c'est une théorie assez intéressante.
Mais c'est intéressant. Est-ce que la beauté, parce que pour nous c'est évidemment déterminant, est-ce que la beauté a un fondement naturel? C'est un petit peu ça qui est derrière la question.
Tout à fait.
Je sais que Voltaire posait la question, comment est-ce que le crapaud choisit sa crapaude? Et donc, quel est le sens de la beauté chez les animaux? C'est passionnant.
Oui, c'est passionnant. Je ne suis pas sûre que Darwin ait parfaitement raison, mais en tout cas, c'est une théorie tout à fait intéressante et qui est rediscutée aujourd'hui auprès des scientifiques. Et il y a une autre théorie qui est très différente, plus inspirée du monde culturel allemand, qui est celle de Haeckel. Pour Haeckel, la beauté est une propriété que crée le vivant de manière inconsciente à partir des organismes les plus simples, en particulier ces radiolaires chéris, qui sont des organismes unicellulaires du plancton marin, qui fabriquent des squelettes siliceux d'une variété et d'une beauté de forme absolument inouïe. Ce sont ces petits animaux unicellulaires qu'il a étudiés lorsqu'il était encore tout jeune étudiant pour présenter son habilitation. Et il leur est resté fidèle. Après, il est devenu un grand expert en biologie marine, donc un invertébré marin. Mais pour lui, la beauté commence par la cellule. Donc il y a une âme cellulaire qui fabrique la beauté. Après, il imagine des degrés successifs qui amènent jusqu'à la beauté du paysage à la Humboldt, donc un paysage où la beauté est dans la plus grande variété possible, tout en gardant une individualité.
Ce qui est extraordinaire, c'est l'effet des théories de Ernst Haeckel. Donc là, on est vers 1860 à peu près, sur les artistes.
66-70, oui.
Hein, sur les artistes, c'est immédiatement dès qu'il a décrit ses radiolaires, ses animalcules, etc. Tous les artistes s'en emparent et on voit dans l'exposition, on ressent dans l'exposition l'impact que cela a, même sur la décoration. Vous évoquez à un moment donné la question de cet extraordinaire musée océanographique de Monaco qui est décoré par des sculptures inspirées des radiolaires d'Haeckel.
Ah oui, le musée océanographique du Monaco est une pure merveille et le musée d'ailleurs nous prête un magnifique lustre radiolaire que nous avons placé dans la dernière salle en écho avec d'autres artistes qui se sont inspirés aux formes marines. Et tout le musée en fait un palais de la mer. On sait que le prince de Monaco était un grand océanographe. C'était on l'appelait le prince océanographe. Et il connaissait Haeckel, qui d'ailleurs est venu à l'inauguration. Et tout le musée est inspiré des formes artistiques de la nature de Haeckel. Il y a un grand lustre dans l'entrée qui est une grande méduse, inspirée de la méduse Ropilema Frida, nommée d'après la maîtresse de Haeckel, Frida von Uslagleichen. Il y a des fers forgés avec des formes animales, des mosaïques magnifiques, des vers. Mais il y a aussi à Paris, l'antenne parisienne de l'Institut de la Mer a des magnifiques vitraux tout à fait haeckeliens.
Juste à côté du Panthéon, vous pouvez aller les voir. Oui. Laurent Grasso, est-ce que aujourd'hui, quand vous regardez des planches de Ernst Haeckel, c'est quelque chose qui peut inspirer un artiste encore aujourd'hui?
Bien sûr. En fait, dernièrement, pour des recherches, on s'est intéressé aux quasi-cristaux. Ce sont par exemple des cristaux qui ont un système mais qui n'est pas périodique et donc avec des formes complexes. Et l'idée de forme complexe m'a donné l'inspiration pour une nouvelle sculpture que j'ai proposée pour une commande. Donc on est toujours aux aguets et en plus... Moi, j'ai une pratique qui tente de prendre appui sur une inspiration qui peut être à la fois historique, aussi futuriste. Et j'aime cette idée de me déplacer dans différentes périodes. Donc oui, j'ai fait par exemple une série d'œuvres en rapport avec les solides de Platon. L'artiste travaille un petit peu avec ce motif scientifique, à la fois sur le sens des choses et sur ce que ça raconte, mais aussi sur l'esthétique. C'est très intéressant pour un artiste de voir les formes qui sont produites par la science, de voir l'esthétique qui peut découler de différentes recherches et de l'utiliser pour faire des objets qui vont à la fois évoquer ces recherches, mais aussi devenir autre chose. Il y a là un phénomène de métamorphose, de mutation qui m'intéresse aussi. On en parlait pour cette nouvelle série de peintures que j'ai faite qui s'appelle Futur Herbarium. Je me suis inspiré de planches et notamment des peintures de Regina Ditch qui a ces très belles planches sur fond assez sombre au 18e qui représentent des fleurs que j'ai fait muter puisqu'il s'agit d'un herbier du futur. Et donc on voit des fleurs dont les cœurs se dédoublent ou se multiplient ou une fleur commence à pousser dans le cœur d'une autre, et toute une série de croisements qui en fait donnent naissance à des formes nouvelles.
Oui, c'est un très beau tableau, cela, en effet. C'est très étrange, c'est Marguerite à double cœur, c'est quelque chose de très étonnant. Et j'imagine que les infinies mutations sont possibles. Et parmi les mutations de l'exposition, il y en a une qui est au cœur et qui est au fond une grande humiliation, Laura Bossi. On ne s'en rend pas compte de la portée que ça a pu avoir dans la psychologie de l'époque. C'est celle que nous indique Darwin, nous descendons du singe.
Oui, nous ne descendons pas des singes qui existent aujourd'hui, évidemment, qui sont nos très très lointains cousins, mais d'ancêtres simiesques. Et évidemment, ça c'était une révolution que nous n'avons peut-être pas encore complètement...
C'est Freud qui parle d'humiliation, hein. Moi je le ressens comme très agréable.
Ah, tout à fait. Oui, il parle effectivement d'illumination comme celle de la Terre qui n'est plus au centre de l'univers et de notre moi qui n'est pas vraiment maître chez lui. Mais en fait, oui, on a essayé de montrer cette obsession pour les ancêtres, pour la généalogie, pour le chaînon manquant. D'ailleurs, avec un tableau très étonnant que nous prête la maison-musée de Heck et la Liena, et qui représente une famille de pithecanthropes, le Pithecanthropus halalus était imaginé et postulé par Haeckel bien avant la découverte de l'homme de Java par Dubois. Et Gabriel Folmax, qui est un artiste que nous sommes très heureux de montrer parce qu'il n'est pas très connu en France.
Et il y a un très grand ensemble dans l'exposition, il y a une dizaine d'œuvres, oui, de Gabriel Folmax, qui est vraiment un artiste d'un raffinement.
Pas une dizaine, mais il y en a plusieurs, oui, tout à fait.
Inouï,
oui.
Et qui vivait avec des singes lui-même, non ?
Oui, oui, oui. Gabriel Folmax était un peintre qui vivait à Munich et qui était immergé dans ce milieu munichois de l'époque, qui était en même temps très darwiniste, heckelien, et aussi en même temps spirite. Donc, par exemple, un de ses tableaux qui avait été montré dans l'exposition La Mocor il y a très très longtemps était La Voyante de Prévorst, selon Justinus Kern. Donc, il a peint des tableaux spirites extrêmement étonnants, des grands tableaux religieux, mais il était passionné par les singes et il en gardait beaucoup, c'était ses animaux familiers. Son seul autoportrait, d'ailleurs, le représente avec un singe. Et il a eu une très belle rétrospective en 2010, je crois, à Munich, mais en France, il n'est pas très connu. Et il montre beaucoup d'empathie pour les singes. Et quand il peint cette famille de nos ancêtres, qui sont effectivement des pithecanthropes, des hommes singes dépourvus de parole, c'est une sorte de... C'est presque une sainte famille, avec une mère avec la larme aux yeux. Et il le fait don, il fait cadeau de ce tableau à Haeckel pour le 60e anniversaire de Haeckel, avec un petit mot dans lequel il dit, bien sûr, la sélection naturelle est importante, mais pour l'évolution de l'homme, l'amour maternel a sans doute aussi beaucoup un rôle très important.
Ça, c'est un très bel ensemble de tableaux. Et puis, il y a ensuite un assez curieux groupe d'œuvres dans l'exposition sur les émotions animales. Je pense en particulier à un tableau de Sir Edwin Henry Landseer, qui est un limier endormi. C'est un tableau qui doit faire 1,20 m à peu près de large. Et on a l'impression que le chien est en train de rêver. Et cette découverte du rêve chez l'animal semble être importante. Qu'en pensez-vous,
Laura? Oui, en fait, nous avons, dans cette section, essayé de montrer ce que voulait d'incarner d'une certaine manière. Ce ne sont pas des illustrations, évidemment. Bien que Landseer, qui était le peintre favori de la reine Victoria, est très discuté par Darwin. Darwin a travaillé beaucoup avec Briton Rivière, par exemple, qui a illustré ses œuvres avec des chiens aussi. Et il trouvait que le fait qu'un chien puisse rêver et un singe rire ou sourire était une preuve de leur âme, on aurait dit autrefois, donc de leur capacité cognitive, et donc du fait que l'évolution des fonctions cognitives des animaux à l'homme s'est fait par degrés, qui était donc la thèse que Darwin défend dans son magnifique livre sur l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, dans lequel il observe aussi beaucoup ses enfants. Darwin avait beaucoup de chiens, il en avait une quinzaine au cours de sa vie, il les a beaucoup beaucoup observés. Il a observé ses enfants, il en a eu 10, un bas âge, et donc nous pensons souvent à Darwin comme le grand voyageur exotique, mais en fait, il a beaucoup travaillé sur les pigeons, sur les chiens, et il a étudié aussi les expressions de ses propres enfants. Et je pense, j'espère que dans cette section, on pourra percevoir cette fascination pour les expressions et des animaux aussi proches des hommes. Ouais.
Alors il y a autre chose qui apparaît dans l'exposition. On a parlé un petit peu de la mer à cause de Haeckel, bien entendu. Je rappelle que dans un moment de l'exposition, il y a des tableaux de vues sous-marines. Il faut savoir que dans l'exposition universelle de 59, je crois, il y avait des aquariums extraordinaires qui étaient installés. Mais dans les tableaux de vues sous-marines, avant que nous allions voir les monstres imaginaires de Dylan Redon, il y a d'abord des tableaux très réalistes qui sont faits, et ça serait amusant quand même que vous en disiez un mot, qui sont faits sous l'eau au 19e siècle.
Oui, c'est vrai. Bon, l'exposition est tellement riche que nous avons un peu fait l'impasse sur une section qui est celle des grandes expéditions et grandes explorations. Évidemment, toute la première moitié du siècle a connu toutes les grandes expositions, les circumnavigations, les expéditions terrestres, et nous montrons donc le capitaine Baudin avec des magnifiques œuvres d'artistes, Humboldt et Bonpland, et Darwin avec des peintures de son voyage sur le Beagle. Mais il y a aussi les tout débuts de l'océanographie, qui naturellement aura son sort définitif vers la fin du siècle avec la grande expédition du HMS Challenger, à laquelle collaborera d'ailleurs Haeckel pour les radiolaires, les coraux, les éponges, les méduses et les siphonophores. Mais nous avons donc dédié une toute petite section, mais je crois qu'elle est assez évocatrice, à la passion que ces découvertes des trésors de la mer, des profondeurs sous-marines ont suscité auprès, pas seulement des artistes, mais même d'un très grand public populaire. On a montré un aquarium, il y a eu une sorte d'aquarium manie. On a montré, naturellement, on a évoqué Jules Verne, qui a beaucoup fait pour passionner, surtout avec 20 milieux sous la mer.
Qui était très scientifique, hein, c'était vraiment une passion pour la science pour Jules Verne.
Ah oui. Il faudrait le relire, parce que chose que j'ai fait avec un très très grand plaisir, parce que c'est vraiment une sorte de... Il était très très documenté, et vraiment ça donne une idée très très riche et très poétique, avec ces listes de coquillages, ces listes de noms de poissons. C'est extrêmement en même temps scientifique et poétique, et ça donne une idée de cette passion pour l'océanographie de l'époque. Et nous avons la chance d'avoir deux œuvres et un groupe d'œuvres magnifiques pour illustrer cette passion pour la mer. Nous avons des méduses de les sueurs, qui sont des vélins sublimes, que nous prête le musée du Havre, et qui sont fraîches comme si elles ont un siècle, mais sont fraîches comme si elles avaient été peintes hier. Mais on a aussi les deux premiers tableaux sous-marins. Un, le tableau de Morin, imagine un fond de mer sans que le peintre ait effectivement pu y aller, mais c'est un tableau très très grand, très mystérieux. Mais l'autre est un plus petit tableau peint par un personnage extrêmement étonnant, qui est un diplomate autrichien d'origine française, rançonné, qui a parcouru pour son métier de diplomate beaucoup de pays, dont l'Afrique du Nord, etc., et qui était un passionné de plongée et qui a fabriqué un véritable scaphandre pour aller peindre les fonds de mer directement sous la mer. Il a d'ailleurs publié beaucoup de magnifiques livres illustrés avec des très belles lithographies, mais le tableau que nous montrons est assez curieux. C'est en fait c'est une vanité, mais c'est vraiment le premier tableau d'un fond de mer peint in situ.
Alors ça, c'est un tableau qui est très extraordinaire. Hein. Je dois dire que c'est l'idée qu'il soit peint directement sous la mer, c'est une idée fantastique. C'est de la recherche d'un autre sublime. Alors très vite, les questions sous-marines vont laisser évoquer des rêves cauchemardesques. Je ne sais pas si Laurent a fait inscrit dans son œuvre on va en parler tout à l'heure, des visions sous-marines. Mais j'aimerais vous faire écouter un extrait de À rebours de Huysmans. On est en 1884 et il parle évidemment des dessins d'Odilon Redon qui s'inspire de ces temps antidéluviens et de ces cauchemars sous-marins.
Parfois même, les sujets semblaient empruntés aux cauchemars de la science. Remonter au temps préhistorique, une flore monstrueuse s'épanouissait sur les roches. Partout, des blocs erratiques, des boues glaciaires, des personnages dont le type simien, les épais maxillaires, les arcades des sourcils en avant, le front fuyant, le sommet aplati du crâne, rappelaient la tête ancestrale, la tête de la première période quaternaire, de l'homme encore frugivore et dénué de parole, contemporain du mammouth, du rhinocéros aux narines cloisonnées et du grand ours.
Laura Bossi, nous avons entendu parler à l'instant des œuvres de Odilon Redon. Il y a un très beau pastel qui s'appelle Vision sous-marine, un pastel de 1900. Et il y a ces êtres qui apparaissent beaucoup dans la peinture et les dessins symbolistes de l'époque, qui donnent l'impression de rechercher une origine, une quête des origines, des formes, comme s'il y avait une sorte d'ontogenèse.
Oui, en fait, dans la deuxième partie, disons, de l'exposition, disons, la partie qui essaye de visualiser, de montrer les interrogations des artistes, d'ailleurs de tous les courants artistiques, après le choc de l'évolutionnisme. Dans cette deuxième partie, il y a une double hantise des origines qui s'inspire directement aussi un peu de la théorie de la récapitulation de Haeckel, qui imaginait que nous, les humains, mais aussi tous les autres animaux, récapitulons, donc vivons en abrégé toute l'histoire des espèces lors de notre propre développement. Donc l'ontogénèse étant le développement de l'embryon et la phylogénèse, l'histoire des espèces. Donc cette obsession de retrouver l'origine, la cellule première, la sortie de l'eau de tout premiers animaux marins, donc les origines de la vie dans les profondeurs marines, est très 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 présente dans toutes les dernières décennies du siècle. Mais aussi, on voit apparaître, mais on le verra peut-être plus tard, une recherche et une apparition de premiers embryons, un renouvellement des thèmes de la maternité, de la grossesse.
Avec une grande inquiétude, parce que c'est la transmission aussi des tares d'une partie de la société.
Oui, il y a aussi un côté sombre, bien sûr.
Je pense en particulier au tableau de Munch, qui est absolument terrifiant, où une mère syphilitique porte son fils et qui donne l'impression lui aussi d'être malade et d'avoir eu la transmission de la maladie.
Oui, tout à fait. Odilon Redon, auquel vous avez fait allusion avant, est sans doute l'artiste français de cette deuxième partie du siècle qui s'est le plus occupé de tous ces thèmes, et en particulier des formes hybrides entre l'animal et le végétal, entre l'homme et l'animal et le végétal. Nous avons la chance d'avoir des magnifiques pastels. Mais non, pas seulement, mais aussi les très grands tableaux qu'il a peint pour les panneaux pour le château de Nancy. Et on a aussi la suite entière, ce qui est assez rare parce qu'il n'y en a que 25 exemplaires, c'est noir sur les origines. Mais lui aussi, un peu entre les deux aspects, une recherche anxieuse et très troublée des origines de la vie, mais aussi une tentative de réenchanter la vie par ces derniers tableaux qui montrent effectivement une nature qui rétrécit des formes colorées et très vivantes. Là, vous avez fait allusion au tableau de Munch. Nous n'avons pas pu, évidemment, montrer beaucoup plus de choses parce qu'il nous faudrait trois grands palais, mais on voulait quand même évoquer ce côté sombre aussi de l'évolutionnisme et de l'ambiance fin de siècle. C'est un peu le côté sombre aussi de l'idéologie du progrès. Il y a, à la fin du siècle, aux côtés de cet enthousiasme pour le progrès, une peur de la dégénérescence. Et je crois que le tableau de Munch est un des plus terrible qu'on a peint. Il y en a d'autres, bien sûr, Degas a peint des choses comme ça. Mais Munch était vraiment obsédé par la généalogie. On a aussi deux très très beaux dessins que nous prête le musée d'Oslo, avec des arbres généalogiques et des sortes de cycles de vie très inquiétants, avec la vie qui ressort d'un cadavre et qui recycle. Tous ces tableaux sont très très troublants.
Laura Bossi, il nous reste donc une minute, et lorsque l'on sort, mais au contraire, c'est passionnant. Je rêve de prolonger tout cela. Lorsque l'on sort de l'exposition, il y a deux tableaux qui sont la conclusion. En un tableau optimiste comme ça, avec une nature généreuse, une nature qui crée la beauté et l'abondance, et l'autre, c'est la nature de l'homme, le pouvoir aveugle. Vous vous tournez de quel côté, vous, quand vous sortez de l'exposition ?
Ah ben moi, je suis d'un naturel très optimiste, mais en même temps, je voudrais qu'on considère que la nature a deux visages. C'est une nature généreuse qui crée des formes magnifiques, et je voudrais qu'on arrive à nouveau à l'admirer, comme ont fait les artistes et les scientifiques d'autrefois. Mais en même temps, il y a aussi le mal dans la nature, et la nature est aveugle, elle ne soucie pas de ses enfants. Et bon, le tableau de Schlicht auquel vous faites allusion montre en effet un homme qui va vers l'abîme avec les sept péchés capitaux représentés comme des animaux qui sont sur son
corps. Et l'autre, c'est l'abondance. Cher Laura Bossi, merci infiniment de nous avoir décrit votre exposition. C'est une exposition de toute beauté. Merci infiniment, Laurent Grasso. J'invite tout le monde à aller voir ce film artificialiste qui est magnifique. C'était merci de tout cœur.
La matière, c'est la vie.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Laura Bossi, commissaire générale de l'exposition L'Origine des Mondes, et Laurent Grasso, artiste, pour vous parler de cette exposition du musée d'Orsay. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata, chargé de recherche Maureen Roy, à la technique Nasser Moussaoui et réalisation Thomas Jost, évidemment. La semaine prochaine, nous rencontrerons Alain Fleischer pour son exposition L'Aventure Générale au 104.